Bah écoutez, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus, même si j'en ai vu plusieurs, je suis content d'être avec vous ce matin, je suis content de pouvoir vous partager ce que j'ai sur le cœur. Alors je profite bien sûr de ma position ici face à vous, tout d'abord pour vous remercier, merci Nat, vous remercier, que vous veniez ici régulièrement, que vous venez une fois de temps en temps, que vous venez pour les grandes occasions, que vous ayez répondu à notre invitation ou que vous arriviez ici, que vous ayez dit mais qu'est-ce qui se passe ce matin, peu importe, voilà, on voulait vraiment vous remercier de votre présence, ça nous touche, j'associe Pauline bien sûr à cela, ça nous touche particulièrement, ça nous fait vraiment plaisir, et voilà, c'est sincère, et je profite de ma position ici ce matin pour vous remercier. Je suis fier ce matin, fier de présenter à Dieu mon fils, mon enfant, mon troisième, mon dernier, vous l'avez compris, j'ai donné, c'est bien. Je suis fier de vous le présenter parce que je le trouve beau en plus, je ne sais pas si vous avez pu le voir, Dominique est beau mon fils, Dominique est beau, elle va le dire, forcément elle ne veut pas dire l'inverse, elle ne voudrait pas qu'on se dispute. C'est vrai, je suis assez fier. Alors Pauline, en moment de signer, elle m'a dit, parce qu'on a négocié, hein. Moi je voulais deux, elle dit un troisième s'il te plaît. On a négocié dur, sec, bon j'ai fini par signer sous la contrainte, et en plus à la fin elle a rajouté une ligne, si en plus tu peux faire qu'il soit beau, ça serait cool. Donc du coup j'ai bien travaillé, je suis content, fier du résultat. Ceci dit, il ne faut pas trop qu'il ouvre sa gamelle, parce que tout de suite il est un petit peu moins beau, il crie beaucoup. Je sais pas, vous l'avez peut-être pas remarqué, plus que son frère et sa sœur, on va dire que ça compense. Et humblement, pour me dédouaner, je vais dire qu'il tient de ça de sa maman. Mais comme je voudrais rentrer quand même chez moi ce soir, il paraît que il a la gamelle de sa marraine. Comme ça, ça règle le problème. Non, blague à part ce matin. Je voulais justement commencer par une petite anecdote. À la naissance, c'est vrai que c'est assez rigolo, mais Antonin, à la naissance, il n'a poussé ni cri ni pleurs. Et je vous avouerai que ça nous a un petit peu perturbés. Au début, on a eu peur. Au moment où il est né, on a même interpellé à sa chambre. On dit, c'est normal qu'il ne crie pas, qu'il ne pleure pas. Parce qu'on avait le souvenir que Léo et Alix, ils avaient poussé un cri, que c'était important. Et puis la sage-femme nous a dit, non, vous inquiétez pas. S'il ne pleure pas, s'il ne crie pas, ce n'est pas un souci. On voit qu'il est bien, il respire bien. Il est à la fois apaisé, en alerte. Tout va bien, pas besoin de vous inquiéter. Et nous, ça nous inquiétait sur le coup quand même. On n'était pas bien. Bon, en fait, on aurait dû en profiter. Parce qu'il s'est bien rattrapé depuis. Regardez d'ailleurs. Voilà, je vous ai dit qu'il était un peu moins beau quand il criait. Je l'ai pris en flagrant délit de crise. Il n'a pas crié. C'était quand même assez rigolo. Et en fait, cette anecdote m'a rappelé à quel point il était important. Alors, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est scientifique, mais il est important pour des parents, des jeunes parents, de voir son enfant crier, pousser un cri à la naissance, sans savoir réellement ce que ce cri signifie. Est-ce que c'est un cri de joie ? Est-ce un cri de soulagement ou plutôt un cri de peur, un cri de détresse? On ne sait pas réellement ce que ça représente, paradoxalement, et pourtant on l'attend, on le veut. Et finalement, quand on regarde à l'âge adulte, c'est un peu pareil. Quand un être humain, d'une façon générale, se met à crier, ça peut représenter une palette de divers et variés sentiments. On peut crier, en effet, de peur, vous connaîtrez la référence. On peut crier de colère, on peut crier de joie, autre référence qui me tient à cœur, mais aussi on peut crier de peine. Et finalement, le cri, qu'est-ce qu'il apporte à ces sentiments divers et variés? Il apporte quelque chose de plus fort, quelque chose de puissant. Je peux être joyeux ce matin, dire je suis joyeux, mais si je fais « yeah, je suis joyeux », ça apporte quelque chose de plus fort, de plus puissant. Et la Bible n'échappe pas à cette règle. Dans la Bible, il y a 50 versets, enfin 49 pour être précis, qui utilisent le verbe « crier ». Et quand on regarde d'un peu plus près ces 49 versets, on se rend compte qu'ils prennent bien en compte les différents sentiments que je vous ai présentés. Et surtout qu'ils prennent en compte la puissance. Il y a quelque chose de puissant, vraiment. Et ce que la Bible apporte surtout, c'est qu'il y a un cri plus particulièrement qui est plus puissant que les autres. Il est plus puissant parce que non seulement il est puissant, mais il ne reste pas sans effet. Et ce cri, c'est quand on le fait à Dieu. Par exemple, dans Juges 3, verset 9, il est dit « Le peuple de Dieu cria à l'Éternel, donc à Dieu, et l'Éternel fit surgir à eux un libérateur. » Autrement dit, on peut imaginer ici le peuple qui était en détresse, il a crié à Dieu, il a envoyé une puissance à Dieu, Dieu l'a récupéré et il l'a renvoyé aussitôt en offrant une solution. Du coup, leur détresse, elle a été balayée d'un revers de la main. Alors, je ne sais pas ce matin si tu as déjà crié à Dieu. Je ne sais pas si tu y as déjà pensé. Peut-être que tu n'y as jamais pensé dans ta vie. Peu importe. On s'en fiche. on va tous s'y retrouver ce matin. Parce que mon but ce matin, c'est de vous montrer, et si on criait à Dieu? Parce que je crois là, et ça sera mon but de ce matin de vous le montrer, qu'on détiendra peut-être à travers ce simple geste instinctif, puisqu'on le fait depuis la naissance, crier, c'est notre première chose qu'on fait. Enfin, sauf Antonin, mais bon, il s'est rattrapé depuis. Une clé importante qui pourrait transformer profondément notre vie au quotidien, et la transformer positivement en plus. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ça vous va? On y va ensemble? Et pour illustrer ça, j'ai pris une histoire dans la Bible, une histoire qu'on a dans les évangiles. Ici, ce sera l'évangile de Marc. Sous-entendu, pour ceux qui ne gèrent pas trop, c'est une histoire qui s'est passée du temps où Jésus était sur terre. Et du temps où Jésus était sur terre, il y a un homme qui a crié à Dieu, qui a crié à Jésus, donc à Dieu, et qui a vu sa vie totalement bouleversée. Cet homme, on sait qu'il s'appelle Bartimée. Il vivait à Jéricho. Et Jéricho, c'est rigolo, pas parce que ça rime, je ne m'en rends compte, mais c'est rigolo parce que c'est une ville où il fait bon de faire du bruit. C'est une ville où il fait bon de faire du bruit. Parce que dans la Bible, on a une autre histoire, bien avant Jésus, bien avant Bartimée, où on sait que le peuple de Dieu a pris cette ville d'assaut, pas en jetant des boulets de canon ou en utilisant des armes, non, simplement en marchant autour de la ville, en faisant du bruit, et cela, ce bruit-là a fait ébranler les murailles qui se sont effondrées. Donc finalement, Bartimée, ici, il va juste perpétuer une tradition à Jéricho, faire du bruit, et il y a des choses puissantes qui vont agir. Bartimée a entendu, alors c'est à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il a juste entendu, il n'a même pas vu, qu'il y a un certain Jésus qui apparemment faisait des miracles, et il s'est dit, ok, s'il passe dans ma ville, je vais pas passer à côté de l'occasion de crier à lui et de voir ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Je vous propose de lire l'histoire ensemble et on en parle juste après. Donc on est en Marc 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta alors son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, maître !» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé !» Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà, histoire incroyable. J'aime énormément cette histoire, elle est puissante, elle est forte. Waouh, j'ai envie de dire waouh. Et cette histoire finalement résume à elle-même ce que je vous ai dit précédemment. Un cri à Dieu peut transformer profondément votre vie. En tout cas, je me base sur cette histoire pour le dire, je me base sur ma propre expérience personnelle aussi, mais aussi sur cette histoire puisque c'est celle qu'on vient de lire. Parce qu'il a su, parce qu'il a osé crier à Dieu, et même pas une fois, deux fois, Bartimée a vu sa vie transformée. Il a vu son problème principal, sa cécité, le fait qu'il soit aveugle, balayé d'un revers de la main. Parce qu'il a cru que ce Jésus qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il avait juste entendu, et donc qui passait comme ça, juste entendu, même pas vu, même pas sur les réseaux, même pas sur Instagram, il ne l'avait même pas vu faire, il s'est dit, il est capable de le faire, et il l'a vu dans sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il a crié à lui. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, voilà, le message est terminé. On a tous des problèmes dans notre vie. Alors peut-être que vous dites, oui, mais moi je ne suis pas aveugle comme Bartimée. Bartimée, c'est un gros problème qu'il avait, qui devait vraiment l'handicaper au quotidien. Mais on ne va pas se mentir entre nous. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, on a tous des problèmes dans notre vie. Peut-être que vous pensez à un problème actuellement, quelque chose qui nous empêche de voir la vie comme on le devrait, de voir l'avenir comme on devrait. Eh bien, je crois ce matin que ton problème, si Jésus est capable, quand on crie à lui, de balayer du revers de la main une personne qui est aveugle, il est capable de le prendre en soin si tu cries à lui. Et donc, je pourrais m'arrêter là et dire, voilà, le message, merci, c'était cool, au revoir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais si je m'arrête là, d'une certaine manière, je n'irai pas au bout de ce que ce passage, cette histoire veut nous montrer. En réalité, en préparant ce message, je me suis dit, si c'est si simple de crier, puisqu'on le fait, c'est la première chose qu'on a fait depuis la naissance, si c'est si bon de crier à Dieu, on le voit dans ce message, pourquoi les 7 milliards de personnes sur Terre ne le font pas quotidiennement? Ou pourquoi ici, si je prends, on n'est pas, je sais pas, peut-être 120, 130, les 120, 130 personnes, on ne va pas se mentir, ne l'ont peut-être même pas tous déjà fait une fois dans leur vie? Pourquoi? Eh bien, cette histoire nous donne la réponse à cela. Je pense que si nous ne crions pas tous à Dieu dans notre vie, même quand nous avons une difficulté, pour que Dieu résout cette difficulté, c'est parce que bien souvent, l'être humain fait face à des obstacles qui, un, l'empêchent de crier à Dieu, ou des obstacles que lui-même, des fois, se met tout seul comme une protection pour s'empêcher de crier à Dieu. Et dans cette histoire, qui a l'air si fluide, si simple, on dit Bartimée, ça a été facile, il a crié, il a été guéri. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, Bartimée, il a été confronté à quatre obstacles qu'il a dû surmonter pour arriver, un, à crier à Dieu, et deux, à voir sa vie transformée. Du coup, la question que j'ai envie de nous poser ce matin, c'est pas pourquoi crier à Dieu ou comment crier à Dieu. Mais la véritable question que j'ai envie de nous poser ce matin, à moi, à vous, à nous, c'est quels sont aujourd'hui les obstacles qui nous empêchent de crier à Dieu et de vivre les bénédictions de cette histoire, de ce que Dieu nous a envie de nous donner. Et pour répondre à cette question, si vous voulez bien, je vous propose simplement de reprendre, d'essayer de repérer les quatre obstacles que Bartimée auxquels Bartimée a été confronté dans cette histoire. Voir si c'est des obstacles qu'on pourrait peut-être croiser aujourd'hui dans notre vie, et voir surtout comment il les a surmontés, pour pourquoi pas, si ça vous tente, les surmonter à votre tour. Ça marche ? Et le premier de ces obstacles auxquels Bartimée a fait face, et qui aurait pu l'empêcher de crier même, c'est le bruit de la foule, le brouhaha. Et c'est vrai que moi j'aime bien le début de cette histoire, le contexte il est posé, moi j'aime bien visualiser les choses, et quand on visualise ce texte, on dit ok au début on voit bien, on est à Jéricho, il y a Jésus, il y a les disciples, et derrière il y a une grande foule. Et au milieu de cette foule, sur le côté, on a Bartimée tout seul, j'imagine comme ça. Et je me dis, je me mets à la place un instant de Bartimée. Il a dû se dire, ok, je veux crier à Jésus. Mais quand je vois tout ce monde, le bruit que ça devait faire, ça devait être un sacré brouhaha, il dit, mais mon cri, jamais il va atteindre Dieu. Jamais. Et je crois que la foule nombreuse qui suivait Jésus aurait pu rendre impossible, voire même inaudible, la tentative de cri de Bartimée. En tout cas, c'est ce qu'il a dû se dire. Et parfois, dans nos vies, je crois qu'aujourd'hui encore, la foule peut être un obstacle, voire même un mobile tout trouvé pour s'empêcher de crier à Dieu. Peut-être que ce matin, tu te dis, depuis que je parle, ok, Geoffrey, j'ai compris, j'ai ciblé un petit problème dans ma vie, un truc, ok, je veux bien admettre qu'il faut que je crie à Dieu, peut-être qu'il ferait quelque chose, mais regarde le nombre de personnes qu'il y a autour de moi. Tu l'as dit tout à l'heure, on a tous des problèmes. Si on se met tous à crier à Dieu, il y en a qui suivent Jésus plus régulièrement que moi, qui viennent peut-être à l'église. Ces gens-là, ils vont être déjà plus entendus que Dieu. Et le mien, mon cri au milieu de tout ça, il sera peut-être inaudible. Si tu crois ça ce matin, j'ai envie de te dire, tu te trompes. Non, soyons comme Bartimée. Bartimée, il a passé outre cet obstacle. Comment? Eh bien, tout simplement en se montrant plus déterminé. C'est sa détermination qui a fait qu'il a réussi à crier malgré tout. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait pour trouver la solution? Il n'a pas crié une fois, mais il a crié deux fois. Et le texte dit qu'il a crié plus fort, il était plus déterminé. Et ce matin, si tu veux crier à Dieu dans ta vie, sache une chose, si tu veux être entendu de Dieu, sois plus déterminé. Y crois plus et plus de foi, parce que c'est ce qu'il a dit Jésus à la fin, ta foi t'a sauvé, c'est parce qu'il a eu plus de foi, parce qu'il a cru plus que les autres, qu'il a vu cette chose arriver dans sa vie. Un petit témoignage pour illustrer ça, si vous voulez bien. En fait, je vais reprendre pour le petit témoignage la naissance d'Antonin. Pour ceux qui ne le savent pas, Pauline voulait accoucher dans l'eau. C'est un petit procédé expérimental, c'est un peu nouveau. Donc c'était un peu son petit truc, elle voulait. Elle dit, mon dernier, je veux accoucher dans l'eau. Donc il y a à la maternité de Tourcoing, il y a une salle spéciale, une salle nature, où on a une baignoire, où la femme peut accoucher dans l'eau, s'accoucher elle-même d'ailleurs. Donc on a suivi tout le protocole, etc. C'est un peu expérimental. Et une semaine avant d'accoucher, elle a un coup de fil. On lui dit, écoutez madame, vous n'allez pas pouvoir accoucher dans l'eau. Tout simplement parce que comme c'est expérimental, il faut un peu rentrer dans les cases. On prend pas des grossesses à risque. Et comme Pauline faisait du diabète gestationnel, ils ont considéré peut-être un gros bébé à risque, donc du coup, on pourrait pas. Bon, c'est tout. Le jour J, perd les os, on va à la maternité. Là, sage-femme auscule Pauline, a dit « Vous êtes à 3 cm. » Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il faut arriver à 10 pour accoucher. Donc c'est le début. Elle dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et Pauline dit « Écoutez, moi, je voulais accoucher dans l'eau. » Je sais que c'est pas possible, mais est-ce que la salle nature est disponible? Au moins, je pourrais peut-être faire le travail, le pré-travail, dans la baignoire, profiter. J'aurais un peu la sensation d'accoucher un peu dans l'eau, même si je ne peux pas le faire. Et la dame dit tout de suite, écoutez, c'est compliqué, vous n'êtes pas arrivé le bonjour. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui doivent accoucher. C'est vrai, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ce jour-là, beaucoup de femmes. Et il y a du monde, hein, il y a la foule devant vous. Il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées avant vous. Bon, ben Pauline dit OK. Elle dit, je vais aller faire un tour, je reviens. Et j'imagine cette sage-femme faire le tour de toutes les femmes qui devaient accoucher. Et revenir et dire, bon alors madame, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Pauline s'est montrée plus déterminée. Elle y a cru, je pense, plus que les autres. Elle a dit, moi madame, je veux la salle nature pour le travail. Donnez-la-moi. Bon, je sais plus comment elle l'a dit, mais c'était comme ça. Moi, d'un point de vue extérieur, je dis, waouh, elle est déterminée. Elle y a cru plus que les autres femmes. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu la salle nature. Elle a géré. Vous voyez, quand on est déterminé, même dans la vie de tous les jours, quand on y croit plus que les autres, c'est comme ça qu'on a les choses. Et bien, c'est pareil avec Dieu. Amen. Deuxième obstacle, le regard des autres sur soi. Oui, en effet, dans la suite du texte, on apprend qu'il y a un autre obstacle qui aurait pu freiner Bartimée. Quand il se met à pousser le premier cri, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui suivaient Jésus lui ont dit « Hey, chut, tais-toi, fais pas trop de bruit. » Sous-entendu, t'es qu'un petit mendiant aveugle, commence pas à te faire remarquer. T'es un peu un gênant, t'es un peu le honteux là. Nous on passe et on s'arrête pas. Donc tais-toi. Et je crois que, en effet, à son premier cri, Bartimée a fait face à la médisance des gens, lui rappelant qu'il n'était qu'un simple aveugle, un simple mendiant, bref, un gênant honteux, et ça aurait pu l'arrêter dans sa tentative. Il aurait pu dire, bah, je vais m'arrêter. Et je crois que parfois, la possible réaction des gens, leur regard ou leur potentielle pensée à notre égard, nous refuse, nous empêche de crier à Dieu. Peut-être encore ce matin, tu dis, ok, bon, j'ai pensé à mon problème, il faut crier à Dieu, bon, faut que je sois déterminé, que j'y crois, bon, allez, ok, d'accord, mais si je me mets à crier à Dieu, que vont penser les gens qui m'entourent? Bon, allez, ok, je vais le faire chez moi, comme ça, ils ne le verront pas, mais si ça marche, imaginez, que va dire ma famille, mes amis? Mais c'est la honte. J'ai crié à Dieu, c'est gênant quand même, un peu d'avoir fait ça. Mais si tu penses ça ce matin, j'ai envie de dire, mais non, regardez Bartimée, il a su passer outre ça, il a su passer outre le regard des gens, et simplement comment? En se concentrant sur Jésus. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu veux crier à Dieu, tu t'en fous du regard des autres, c'est qu'une affaire entre Dieu et toi. Et ici, Jésus, c'est ce qu'il va faire. La réaction de Jésus va faire qu'il va transformer ce moment, même si ça sera public, entre un moment d'intimité entre Bartimée et lui. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il entend, il dit « Oh, amenez-moi cette personne ». Et là, c'est rigolo. Hein. Ça reflète bien notre, comme quoi le monde n'a pas trop changé. Les gens qui médisaient, qui étaient là en train de dire « Tais-toi !» Jésus a dit « Faites-moi venir cette personne. Oh, viens, il t'appelle. » Incroyable, hein, changement, volte-face tout de suite. Il ramène. Donc, hop, petite leçon pour tout le monde à ce moment-là. Et quand l'homme vient, Jésus lui pose une question. Et je me suis toujours posé, mais pourquoi il pose cette question? Vous imaginez Jésus, un aveugle vient devant. Jésus faisait des miracles à ce moment-là. Il devait bien se douter que si l'aveugle y vient, c'était pas ce qu'il voulait, recouvrir la vue. Mais Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? À votre avis, pourquoi il pose cette question? Moi, je pense avoir la réponse. J'ai réfléchi. Ben, tout simplement, il voulait montrer aux autres et il voulait montrer à Bartimée. Bartimée, je ne te vois pas comme les autres. Je ne te vois pas comme un aveugle, un mendiant. Je te vois comme les autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il le remet au même niveau que les autres. Eh bien, je crois que ce matin, si vous voulez crier à Dieu, faites pas attention au regard des autres. Dieu veut vous remettre au même niveau. Il veut un contact face à face. C'est entre vous deux et pas avec les autres. Voilà. Finalement, un petit témoignage, je vous ai dit, je suis branché à accouchement, mais c'est vrai que tout me fait le lien avec ça. Dans la réaction ici de Jésus, j'ai retrouvé la même réaction et la même façon de faire des sages-femmes au moment où vous accouchez. Il faut dire ce qui est, si demain, je me suis imaginé ça, j'avais ouvert la porte et je m'étais retrouvé dans la salle d'accouchement du Notre-Dame, ben, je me serais retrouvé dans un grand moment de honte et gênant. Parce qu'il faut dire ce qui est, un accouchement c'est quand même personnel, c'est quand même particulier, ben voilà, il y a la nudité, il y a tout ça, c'est, d'un point de vue extérieur ça peut être gênant. Bon ça va, quand c'est ton épouse ça va, mais même, quand même, c'est un peu particulier. Et je me dis, les sages-femmes quand même, quel beau métier, elles accouchent que des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et heureusement qu'elles n'ont pas ce même regard que nous, que quand elles rentrent dans la salle, elles ne se disent pas « Oula, c'est gênant ». Non, qu'est-ce qu'elles font au final? Qu'est-ce qu'elles font au final? Eh bien elles font comme Jésus. Elle se connecte avec la femme qui accouche. Ça se passe qu'entre eux deux. Et le but, c'est quoi? Ben, c'est qu'au final, le bonheur vienne et que l'accouchement se passe. Ben, c'est un peu comme Jésus ici avec Bartimée. Il y a une connexion. Pensez à ça en tout cas. Le regard des autres ne doit pas être un problème, ce n'est qu'un. Cette histoire, si tu cries à Dieu, c'est qu'une histoire entre lui et toi. Troisième obstacle, on avance. L'absence de réponse au premier cri. Et oui, ça aurait pu être un obstacle. Parce qu'en effet, on voit bien dans l'histoire que Bartimée pousse un premier cri et il n'a pas de réponse. Il est obligé de s'y reprendre en deux fois. Et je crois que malgré la proximité physique qu'il y avait entre Jésus et Bartimée, puisque le texte dit que quand Bartimée a voulu voir Jésus, il a juste fait un bond et il était limite à Jésus. Donc la première fois, quand Jésus est passé, qu'il n'a pas entendu le premier cri, il est un peu abusé, je trouve. Il n'était pas loin, il aurait pu faire un effort. Mais ce dernier, Bartimée, je parle bien sûr, a dû s'y reprendre à deux fois pour attirer son attention. Et Jésus a fini par lui répondre. Et vous savez, parfois, je crois que des expériences infructueuses nous poussent à croire que ça vaut pas la peine d'insister, de crier à Dieu. Peut-être que ce matin, depuis que j'y parle, je me mets à votre place, hein, j'ai réfléchi avant. C'est grâce à Rita, ça, je la vois, elle m'inspire. Et je me dis, vous devez vous dire, ok, bon alors, faut crier à Dieu, déterminer, pas regarder les autres, ok. Mais moi, une fois, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Franchement, il ne s'est rien passé dans ma vie, je vais vous avouer, il ne s'est rien passé. Donc, bon, Geoffrey, t'es gentil avec ton message, mais ça passe. Mais si tu crois ça ce matin, j'ai envie de te dire, peut-être que tu te trompes. Regardez Bartimée, s'il avait réfléchi comme vous, s'il n'avait pas crié une deuxième fois, il n'aurait pas eu la bénédiction dans sa vie. Donc peut-être que tu as essayé une fois et qu'il ne s'est rien passé. Et bien, tente une deuxième fois. Tente même une troisième fois si tu as dit deux fois. Pourquoi ? Parce que Jérémie 33:3 dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Si tu cries à Dieu, Dieu finira par te répondre. Et c'est ce que Bartimée, il a dû s'y prendre à plusieurs fois, mais Jésus lui a répondu. Petit témoignage, accouchement, forcément. Ici, donc Pauline, vous savez, voulait accoucher dans l'eau. Et je me souviens, hein, pendant la grossesse, elle dit, « Ah, Jo, je prie, je crie à Dieu. » J'ai dit, « Seigneur, c'est mon dernier accouchement. » J'ai dit, « Merci, Seigneur. » Mais je veux pas grand-chose, je veux juste que le bébé soit en bonne santé et je veux accoucher dans l'eau. Elle a crié à Dieu. Alors autant vous dire que la semaine précédemment, c'était teasing, c'est déjà fait, la semaine précédemment quand l'hôpital a appelé, on était en vacances à Bredune. En plus j'étais pas là quand il a appelé et qu'ils ont dit qu'on pouvait pas accoucher, je suis rentré, j'ai vu à sa tête. J'ai dit « Oh, j'ai fait une bêtise ». Non, j'ai pas fait de bêtise, elle était décomposée. Et le soir à l'apéro, c'est là où ça se débride un petit peu, elle m'a dit « L'hôpital m'a appelé, tu sais, aujourd'hui. » Je dis, ah bon ? Elle dit, je ne pourrais pas accoucher dans l'eau. Oh, je dis, désolé, ma chérie. Elle dit, je ne comprends pas. J'ai crié à Dieu. Je lui ai demandé, c'est la seule chose que je veux. Pourquoi il ne me l'a pas donné ? Et là, j'étais pas bien. J'ai pris un deuxième verre, du coup. Et je me suis dit, mais comment ? Je me voyais déjà passer la soirée à devoir essayer de justifier pourquoi Dieu n'avait pas répondu et je ne savais pas. Et puis, on a discuté, et elle a eu cette réaction incroyable. Elle me dit, bah, au final, peut-être. S'il ne voulait pas que j'accouche dans l'eau, c'est peut-être qu'il avait prévu quelque chose de mieux pour moi. J'ai dit « Alléluia !» Ma soirée est sauvée. Et puis donc, comme vous savez, on est arrivé à l'hôpital, elle a quand même eu la sale nature, plus déterminée, elle est dans la baignoire, le travail se fait, puis à un moment elle me dit « Jo, j'avoue, j'étais sur le côté un peu, je la laissais gérer un peu le truc, elle dit « Jo, j'en peux plus ». Donc je viens, elle dit « Appelle les sages-femmes ». J'appelle la sage-femme, elle dit « J'aimerais que vous puissiez... Regardez où j'en suis, Pauline a dit, parce que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Et la sage-femme nous a dit, oh, vous êtes à 9 cm. Deuxième alléluia, moi je savais que c'était bon, ça devenait bon. Et puis elle dit, bon, bah écoutez madame, vous êtes à 9 cm, il vous reste 10-15 minutes, on va préparer le lit, on va vous sortir de la baignoire dans 5 minutes, et vous allez accoucher. Ok, bon, Pauline a un peu deg, parce qu'elle était bien dans la baignoire, mais elle dit, c'est tout, c'est comme ça. Et la dame dit, bon, bah allez préparer. Et puis, 30 secondes plus tard, la sage-femme était encore là, Pauline fait, ah! Elle avait une contraction, elle fait « Ah !» Elle était dans la baignoire, elle fait « Je sens la tête !» Donc là, moi, je regarde la sage-femme me regarde, elle a l'air de dire « C'est moi qui allais trouver la solution. » Je dis « Non, madame, c'est vous !» Elle dit « Appelez du monde !» Elle était en panique, elle s'est dit « Punaise, moi, je sors du protocole, je vais me faire virer !» Et puis Pauline, elle dit « Ah, j'ai la tête en entier, là !» Et là, la dame s'est ressaisie, elle a dit « Bah, écoutez, accouchez !» Et Pauline, elle a sorti le bébé comme ça, dans la baignoire. Ouais. Vous applaudissez, moi j'ai pleuré direct, c'était trop beau. Elle pleurait, tout le monde pleurait, tout le monde était content, c'était magnifique. Elle s'est accouchée, elle a pu le faire malgré tout. Et à ce moment-là, elle a eu cette réaction, quelques minutes après, sous le coup d'émotion, elle m'a dit, mon amour, elle dit, j'ai crié à Dieu la première fois, je pensais qu'il ne m'avait pas écouté. Mais en fait, c'était plus beau ce qu'il m'a fait. il a entendu mon deuxième cri, j'ai pu accoucher dans l'eau, et c'était même encore plus beau comme ça, parce que je ne m'y attendais pas. Et du coup, l'effet de surprise était là. Merci Seigneur. Vous voyez, il avait entendu son cri, il a fini par lui répondre. Pleure pas, mamie. Ça va couler ton maquillage. T'as raison, mamie, de pleurer. Allez, le quatrième obstacle, le dernier, son manteau. Oui, le dernier obstacle qui aurait pu empêcher Bartimée de vivre tout ça, c'est son manteau. On voit bien en effet qu'à un moment donné, dans le texte, il y a quelque chose de rigolo, les Écritures donnent ce détail surprenant. En s'approchant de Jésus, ou avant en tout cas, Bartimée a enlevé son manteau. Et pourquoi cette précision est importante? Je me suis dit, mais pourquoi Marc s'est amusé à dire « il a enlevé son manteau ». On s'en fout, il a été guéri. Pourquoi préciser qu'il a ôté son vêtement? Et j'ai un peu réfléchi. Je suis prof de maths, donc je suis un peu scientifique, terre à terre. Moi, je me suis dit, bah, s'il a enlevé son manteau, étant aveugle, c'est peut-être pour éviter de marcher dessus, de trébucher au moment de courir vers Jésus. Vous voyez, terre à terre. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose d'autre, il y a peut-être quelque chose de symbolique fort derrière ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de symbolique fort, peut-être que vous le voyez venir un peu. Vous savez, en tant que prof de maths, des fois, on a des élèves, l'hiver souvent, mais même l'été, qui arrivent en classe, ils s'assoient à leur place, ils gardent leur manteau, leur grosse doudoune sur eux. Et quand on leur dit, tu peux enlever ton manteau s'il te plaît? Non. Et tu sais très bien qu'il vaut mieux pas insister des fois, sinon ils seraient capables de t'en mettre une. C'est vrai, il y en a, ils sont forts comme ça. Et du coup, une fois, une psychologue scolaire, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi les élèves, certains gardent comme ça? Elle dit, bah, tu sais, c'est parce que souvent, ils ont peut-être des problèmes et c'est une façon de se protéger, se couvrir. Et le manteau, ça représente aussi ce qu'ils sont, en fait. C'est leur premier aspect, c'est ça, c'est leur manteau. Ah, je dis, d'accord. Et j'ai fait le lien un peu avec ça et je me suis dit, finalement, est-ce que le manteau de Bartimée, c'est pas ce qu'il représentait? Ce qu'il était? Bah oui, c'était un manteau d'un mendiant aveugle. Donc, on peut imaginer un manteau sale. Un manteau pas très propre, quelque chose de lourd sur ses épaules, parce que ça devait permettre de se couvrir quand il faisait un peu frais, même si dans ce coin-là, il fait souvent beau. Jacqueline, toi qui es déjà allée là-bas, il fait beau quand même. Hein? Il devait le garder. Mais et je me suis dit, ben alors pourquoi il l'a enlevé? Ben je pense que la symbolique est forte. En enlevant son manteau, Bartimée a fait ce que Jésus a un peu anticipé, ce que Jésus allait faire sur sa vie. En faisant ce miracle, il a ôté ce qui pesait sur ses épaules. Il a totalement transformé aussi l'être qu'il était, l'être qu'il était, ce mendiant. Il l'a fait, c'est un peu prophétique ce qu'il a fait, il l'a enlevé, il a dit « je ne suis plus ça ». Et parfois, vous savez, notre passé ou même notre vie actuelle nous font penser que nous sommes indignes pour crier à Dieu. Mais moi, c'est sale ce que je porte sur mes épaules, Dieu ne peut pas me l'enlever. Ou alors, vous voyez tout ce que je veux dire. Si tu penses ça ce matin, non, sois comme Bartimée. Crois que Jésus est capable d'enlever ça, il peut le faire. Il peut le faire. Et petit témoignage, il sera court, je terminerai avec l'accouchement. Quand Pauline a sorti Antonin de l'eau, il était propre. Moi, je me souviens que Alix, Léo, surtout Léo, c'était sale. Lui, il était propre. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu sortir, moi, ça m'a fait penser au baptême. Le baptême, on présente ça comme une nouvelle naissance, en plus. C'est rigolo. Et comme si un peu notre ancienne vie sale, ben hop, Jésus a tout pris et tout nettoyé. Et ici, je voyais un peu cette idée-là, cette image-là, quand j'ai vu Pauline sortir et quand j'y réfléchis après. Il était propre, il était apaisé. Comme je vous ai dit, il n'a même pas crié. C'était incroyable. Et ben, c'est un peu pareil avec Dieu, à ce moment-là. Alors, on fait quoi maintenant? Ben, j'ai vu qu'elle doit s'était posée. On peut faire un fond musical. Ben, écoutez, il y a des obstacles. Quatre obstacles, qu'est-ce qu'il a fait Bartimée? Il les a cassés, il a sauté au-dessus, il les a enjambés. Ben, je vous propose de casser ces obstacles. Et pour casser les obstacles ce matin, quatre dernières clés, quatre derniers marteaux si vous préférez. Je crois que la première chose qu'il faut qu'on se dise ce matin, c'est que peut-être je dis un message, c'est vrai que ben, vous êtes nombreux, c'est un message fait à beaucoup de monde. Peut-être que tu te dis, bon, ce message, il est plus pour mon voisin que pour moi. Non, je crois que ce matin, comme je vous l'ai dit au début, ce message, je le prends pour moi. Déjà, dans ma propre vie, je le prends. Si vous voulez vraiment vous sentir concerné, il faut se sentir concerné. Et on peut tous être concernés par ce message, au fond. Je suis sûr que vous avez tous été au moins interpellés par un truc. La deuxième chose, vous êtes dit peut-être sur la fin, ça y est, Geoffrey nous a présenté sa religion. Il nous a fait son petit discours religieux. Non, ce matin, je ne suis pas venu vous présenter une religion. Souvent, vous savez, l'homme a utilisé la religion pour atteindre Dieu. C'était le seul moyen, la religion pour atteindre Dieu. Moi, je me base simplement sur la Bible. La Bible me dit, pour atteindre Dieu, il y a un seul moyen, un seul chemin. c'est Jésus. Donc ce matin, je ne suis pas venu vous présenter une religion, je suis venu vous présenter Jésus. Et pour le présenter, Jésus, je vous ai dit, vous voulez le rencontrer, criez à lui, il répondra. Simplement. Alors comment on va faire ce matin? Bah écoutez, je ne peux pas vous prouver que Dieu existe, comme je vous l'ai dit, mais je peux vous amener à le rencontrer. Donc on va crier. Alors je sais que vous allez dire crier. Je ne vais pas crier devant tout le monde. Si on se met tous à crier, on va passer pour des barges. On n'est pas dans une secte. Je ne vais pas vous demander aussi de faire des incantations, etc. Je vous rassure tout de suite. Non, on va juste faire un petit temps musical. Et j'aimerais que dans ce temps musical, nous puissions crier à Dieu aussi dans notre cœur. Parce que parfois, je crois qu'il vaut mieux un cri du cœur sans mots qu'un cri à voix haute avec des mots, mais sans cœur. Et j'ai envie qu'on adopte le côté cri du cœur sans mots. Vous pensez à cette situation comme Bartimée ? Jésus passe aujourd'hui. Ok, on crie à lui. Dans votre cœur. Et puis après, si vous voulez, on pourra en rediscuter. Il y en aura un apéro. Si vous voulez qu'on en discute, on pourra en discuter. On pourra en parler. Si vous êtes des choses, vous n'êtes pas d'accord, on pourra discuter. Des choses d'accord, on pourra discuter. Vous avez vu papa, vous avez vu Jean-Luc. Il y a plein de gens avec qui vous pourrez discuter de ça. Je pense, je ne veux pas vous prendre un défaut. On pourra en discuter. La seule chose que je vais faire, c'est que pendant ce temps musical, je vais prier. Et si tu ne sais pas crier, si comme je vous dis, tu n'as pas de mots, au fond de ton cœur, tu penses juste à cette situation, tu veux voir quelque chose changer dans ta vie, dis juste amen à la fin de ma prière. Et crois que Dieu t'entendra et il pourra agir. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier ce matin et je veux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur, pour ma famille. Je veux te remercier pour mon fils, pour mes deux premiers, mais pour Antonin, et que je te remets encore. Mais je veux te remercier aussi, Seigneur, pour chacune des personnes ici présentes. Merci, Seigneur, parce que je suis sûr que tu as un regard particulier sur chacune de ces personnes. Je le crois. Tu n'oublies personne. Tu ne laisses personne au bord du chemin, comme Bartimée. Et si, Seigneur, ce matin, nous voulons être tous des Bartimées, Seigneur, nous voulons vivre la réalité de ce que Bartimée a vécu dans sa vie. Et pour cela, Seigneur, je te demande juste une chose. Tu vois le problème que j'ai au fond de mon cœur. J'y pense. Ça m'empêche de voir clair. Ça m'empêche de voir clair aujourd'hui et l'avenir. Seigneur, je veux recouvrir la vue. Et pour cela, Seigneur, dans le fond de mon cœur, je crie, Seigneur, montre-moi dès cette semaine, montre-moi dans les semaines à venir que cette réalité dans ce texte, ce n'est pas juste un texte qui fait beau, mais c'est quelque chose qui se vit encore aujourd'hui. Parce que tu me l'as déjà montré à moi, Seigneur, mais je te prie que tu puisses encore me le montrer et le montrer à chacun d'entre nous, Père. Je te loue vraiment d'avance, Seigneur, pour cela. Je veux crier à toi. Je ne veux pas crier sur toi, Seigneur. Parce que Bartimée aurait bien pu crier sur toi en disant, c'est qui ce Jésus qui se dit être le Fils de Dieu ? Mais qui passe ? Quand il va passer, je vais crier sur lui, je vais lui dire et je vais lui demander pourquoi mes parents ont fait que je naisse aveugle ? Pourquoi je suis né aveugle ? Il va me l'expliquer pourquoi mon Dieu il m'a fait naître aveugle. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. On ne veut pas crier comme ça. On veut juste, Seigneur, croire que ce problème, tu es capable de le balayer d'un revers de la main si je crie à toi. C'est cette foi-là que nous voulons présenter à toi. C'est cette détermination. C'est ce face-à-face avec toi. Amen, mon Dieu. Gloire te soit rendue, Père. Amen.